Les Grands Témoins, un podcast produit par les Champs Libres. Pour ce nouvel épisode, une grande témoin spécialiste de philosophie environnementale, Catherine Larère. Découvrez en une dizaine de minutes, dans ce nouvel épisode, le concept d'écoféminisme. Catherine Larère propose ici de déconstruire l'imaginaire collectif autour de l'écoféminisme. Que signifie précisément ce mot? D'où vient-il? En quoi l'écoféminisme représente une nouvelle forme de pouvoir qui s'inscrit dans le lien avec les autres? Peut-on tous être écoféministes?
Sous le mot écoféministe en France, vous avez une grande quantité de mouvements qui peuvent être aussi bien des mobilisations de femmes sur des questions écologiques auxquelles on s'attend, du genre climat, mais vous pouvez aussi avoir un groupe de femmes ou un groupe mixte dans un endroit de la campagne française qui essaie de vivre autrement sur la terre. Mais ce n'est pas un mouvement, ce n'est certainement pas un parti, ce n'est pas une doctrine, ce n'est même pas une fédération de mouvements. C'est un mot dont on s'empare et dont on essaie de faire quelque chose. Il faut se méfier de la fausse symétrie du mot. On peut se dire écologie, féministe, écoféminisme, c'est une forme de féminisme écologique. C'est pas ça. C'est beaucoup plus des femmes qui interviennent sur des questions de femmes dans un mouvement écologique. Si on vient maintenant aux années, disons, 70, c'est que ce qu'on désigne très souvent sous le nom d'agriculture familiale, donc d'une agriculture de subsistance, mais c'est l'agriculture qui permet à des familles de vivre, eh bien, cette agriculture familiale, c'est une agriculture de femmes. Dans ces mouvements connus sous le nom de Shipko, en Inde, qui réunit des femmes ordinaires, si je puis dire, il y a une jeune femme qui va venir les soutenir, les aider, et ça va devenir quelqu'un d'extraordinairement connu, puisque c'est Vandana Shiva qui est l'icône écoféministe mondialiste la plus connue. Et elle va écrire avec une sociologue allemande qui s'appelle Maria Miss. Elles vont écrire ensemble un livre et elles vont l'appeler écoféminisme. Elles reprennent le mot américain. C'est par là que donc se fait le lien. Ça fait un lien, mais pas une unité politique.
La hiérarchie entre les êtres humains relève en fait d'une construction discursive et assimilatrice selon laquelle seules les femmes seraient liées à la nature. Et si on parvenait à se libérer de cette idée de naturalisation? Ne faudrait-il pas envisager un lien avec la nature qui rassemblerait les hommes et les femmes?
Quand Françoise Daubonne publie Le féminisme ou la mort, c'est là qu'elle va faire une liaison qui va ensuite caractériser les formes très diverses d'écoféminisme, cette idée qu'il y a un lien entre l'oppression des femmes et l'exploitation, la domination de la nature. Et pour elle, ce lien, c'est dans la façon dont les hommes s'emparent de la fécondité des femmes et de la fécondité de la nature. C'est dans le langage que ça se passe. Si vous prenez les langues européennes, anciennes, grecques et latins, et modernes, la nature est toujours féminine. On parle toujours de la nature au féminin. C'est une association qui se fait dans le langage. On voit la nature comme une femme, on voit la terre comme une mère, et on voit les femmes sur modèle animal. Ça ne dit rien, ni sur ce qu'est la nature, ni ce que sont les femmes, mais ça les lie. Alors, ça les lie dans une commune oppression. Alors, ça s'est montré de façon philosophique, technique, assez complexe, mais assez convaincante, de la façon dont, dans la double distinction homme-femme et humain-nature, eh bien, ces deux distinctions qui sont hiérarchies, les hommes sont supérieurs aux femmes et les humains sont supérieurs à la nature, elles vont être liées l'une à l'autre par justement cette assimilation que fait le langage entre les femmes et la nature, et que donc cette double oppression qui pèse sur les femmes comme sur la nature et qui, en naturalisant les femmes, les déprécie. Ça explique à la fois l'inquiétude des féministes quand on se met à parler d'écologie, parce qu'on peut s'imaginer qu'on va dire « Ah ben oui, c'est vrai, les femmes sont vraiment identiques à la nature ». Au contraire, c'est une construction qui les associe, Ben, une fois qu'on s'est libéré de ça, une fois qu'on a dit, ben, écoutez, non, les hommes et les femmes sont aussi naturels ou pas naturels, qu'on peut caractériser comme une naturalisation. Hein, dire la famille, c'est naturel, ben non. Hein, c'est une naturalisation. Ce que font les écoféministes, c'est dire, oui, mais une fois qu'on s'est libéré de cette double oppression qui nous frappe, de ce rapprochement entre les femmes et la nature qui passe parce qu'on dévalorise et les femmes et la nature, qu'est-ce qu'on fait avec la nature? Est-ce qu'il peut y avoir une association positive? Starhawk fait une distinction extrêmement intéressante, je trouve, et qui est reprise par d'autres qu'elle. Elle fait la distinction entre, sur la question du pouvoir, entre ce qu'elle appelle le pouvoir sûr et le pouvoir du dedans. Le pouvoir sûr, c'est les formes de pouvoir les plus connues. Hein. Que ce soit du pouvoir politique, hein, quand on est président de la République, on a le pouvoir sûr, on exerce une force de commandement pour soumettre d'une façon ou d'une autre des gens en dessous de soi. Le pouvoir technique tel qu'on le conçoit généralement, c'est aussi conçu comme un pouvoir sûr, hein, on contrôle, on domine la nature. À ça, Starhawk distingue ce qu'elle appelle le pouvoir du dedans, qui n'est pas l'exercice d'un pouvoir sur autre chose, mais qui est un renforcement, alors nous dirions en puissance en français, mais en pouvoir dans le lien avec les autres. On fait une manifestation pour imposer à une autorité extérieure quelque chose qu'elle ne veut pas faire, mais qu'on va tenter de la forcer de faire. C'est typiquement du pouvoir sûr. Il y a eu une anthologie de textes écoféministes qui s'appelle Reclaim, et il y a un article qui est écrit par une des organisatrices de cette marche sur le Pentagone, et le titre c'est « Si on danse pas à ta révolution, j'y vais pas ». Cette manifestation du Pentagone, c'est pas du pouvoir sûr. C'est des femmes qui manifestent ensemble pour montrer qu'elles existent, qu'elles ont des choses à faire, qu'elles ont des choses à dire. C'est l'idée qu'on ne va pas faire la marche sur le Pentagone pour obliger, je ne sais pas moi, le secrétaire d'État aux armées d'abandonner son programme militaire. On fait une manifestation pour se renforcer, pour danser, pour trouver du plaisir, pour raconter des choses, pour se sentir plus forte. Mais de même qu'il n'y a rien qui pousse les femmes par leur nature à s'occuper de l'environnement, il n'y a rien qui, par la nature des hommes, les exclut des questions environnementales. Donc, ils ont leur place. Il n'y a pas de raison de se penser à part de la nature. Qui est-ce qui se pense à part de la nature? C'est les hommes. C'est ça qui est aberrant, de se penser que être humain, c'est se détacher de la nature. Bon, non. Les femmes qu'on a forcées à être près de la nature se sont rendues compte qu'il y avait peut-être des bons moyens d'être près de la nature et que tout le monde y gagnait. Eh bien, que les hommes y viennent. Voilà, on les invite.
Les grands témoins, un podcast produit par Les Champs Libres et réalisé par Hélène Noël. Retrouvez tous les podcasts, articles et vidéos en ligne sur le mag des Champs Libres, www.leschampslibres.fr.